Et bonjour, vous êtes sur le réseau FM+. Ce réseau réunit deux radios, Alliance Plus à Nîmes sur le 103.1 et FM+ à Montpellier sur le 91 de la bande FM. Tous les vendredis à 10h10, retrouvez Scénorama, votre émission dédiée à l'actualité culturelle, avec rediffusion le samedi à 12h10 et écoutable en podcast sur fmplus.org. Aujourd'hui, j'accueille Arnaud Laroche, directeur des Boutographies, soit les rencontres photographiques de Montpellier, dédiées aux nouveaux talents européens, et c'est du 4 au 26 avril. En seconde partie, Bella Zupone nous dira tout sur les horizons du texte, où lire le théâtre contemporain, c'est à compter de ce samedi 28 et jusqu'au 3 avril. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Alors Arnaud, voici la 15e édition de ces rencontres photographiques européennes. Est-ce que vous voulez nous présenter la genèse de cet événement ?
Alors, ces Boutographies sont nées dans un petit quartier qui s'appelle Boutonnet, d'où le nom du festival. C'est né en 2001 à partir depuis une exposition collective qui s'est transformée en festival l'année suivante pour accueillir de nouveaux photographes.
Oui, donc ça a été très vite. Et ce choix des photographes européens, ça a été dès le départ ?
Non, en fait, ça s'est fait petit à petit. Il s'est trouvé que, curieusement, à Montpellier, il y a pas mal d'étudiants étrangers. Parmi ces étudiants étrangers, il y avait des photographes. Et on a commencé, en fait, avec la Pologne. C'était le premier pays qu'on a accueilli.
Mmh. Alors, les Boutos changent de lieu, on va dire, environ tous les 7 ans. Donc, après le quartier Boutonnet, vous avez l'espace du pavillon populaire, c'est bien ça ?
Ouais, exactement.
Voilà, et donc maintenant, la Panacée. Alors, on va dire c'est une consécration, la Panacée peut-être ? C'est quand même un super lieu.
Alors, c'est un très beau lieu. C'est un lieu qui est très différent du pavillon populaire parce qu'on se retrouve avec des grandes salles où on doit mettre plusieurs photographes par salle, ce qui n'était pas forcément le cas au pavillon populaire. Ils avaient chacun leur box, ce qui nous oblige, nous, par rapport aux sujets photographiques qui sont présentés, eh ben, de trouver les bons photographes qui vont aller dans une même salle, par exemple.
Ça va être voilà, une autre scénographie. Mais c'est vrai que c'est quand même le lieu d'art contemporain à Montpellier. Donc c'est en plein cœur de ville. Et c'est vrai que c'est quand même un bel espace. Voilà, et tout sera concentré sur cet espace.
Quasiment tout, oui.
Mmh. Alors pour fêter cet anniversaire, le festival décline une programmation enrichie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les nouveautés ?
Alors, les nouveautés au niveau photographique ?
Mm-hmm.
Ben, de nouveautés, nous on a toujours été éclectiques. Donc chaque année vous avez à peu près de tout en photographie, donc c'est difficile de trouver de la nouveauté là-dedans. Mais,
au niveau du concept peut-être, alors les nouveautés en ce qui concerne cet événement ?
Ben, au niveau de l'événement, au niveau de...
Il y a le lieu.
Oui, en fait, le lieu va être quelque chose de beaucoup plus accueillant parce qu'il y a le bar, parce qu'il y a une salle de conférence directement sur place, parce qu'il y a Spatio. Donc, il peut y avoir quelque chose, effectivement, on va voir ce que ça donne, de plus accueillant, entre guillemets, par rapport au pavillon populaire. Mais vis-à-vis du festival... Les nouveautés qu'on peut trouver, finalement, c'est peut-être le photographe invité cette année, Christian Lutz, qui est la première fois qu'on invite un photographe. Sinon, après, j'ai pas envie de dire, c'est pas la même chose que les autres années, mais parce que tous les photographes changent.
Oui, mais en fait, je voulais dire les temps forts. Mais puisque nous avons abordé ce photographe-là, Christian Lutz, voilà, je pense que c'est quand même un événement. C'est un photographe qui va présenter sa trilogie, c'est ça ?
Alors, c'est un travail qui a été commencé il y a pas mal d'années, à peu près une dizaine d'années. Christian a travaillé sur le pouvoir, donc il a fait trois travaux. Un qui est sur le politique, un autre qui est sur l'économique, et le troisième qui est sur le religieux. Troisième qui a posé un petit souci de droit à l'image, raison pour laquelle en fait on a décidé cette année de présenter son travail, parce qu'il a eu vraiment une grosse actualité en Suisse. Ça a duré pendant 2 ans de procès. Il a fini par gagner une partie du procès, donc il peut montrer certaines images, et c'est ce qu'on va présenter à la Panacée.
Et si je ne me trompe, il va faire une conférence de presse. Enfin, pas de presse, une conférence au public. Je sais.
Voilà, il y aura une conférence qui sera donnée le mercredi 8 à la fac de droit rue du Cardinal de Cabrières à 17h. Alors, elle est d'autant plus intéressante que, évidemment, on va parler de droit à l'image, mais on va aussi parler de compréhension de l'image, ce qui a finalement amené ce procès. C'est parce que certaines personnes n'ont pas compris les images ou les ont interprétées à leur manière qu'on en est arrivé là.
C'est en entrée libre, Arnaud? Tout à fait, il faut s'inscrire ou pas pour cette conférence?
Ce serait sympa de pouvoir nous contacter sur contact@boutographie.com. Le mail est sur le site, parce que on a besoin de savoir à peu près combien il y a de personnes qui vont venir. L'amphi, je crois, contient 200 places, mais c'est le maximum.
Vous êtes sur le réseau FM+, dans votre émission Scénorama. Arnaud disait que bon choix, ce morceau-là que nous venons d'entendre. Et je lui dis, c'est Manu qui a choisi. Manu, tu peux peut-être nous dire quel est ce morceau et ce groupe?
Pour tout vous dire, en réalité, c'est une suggestion de Stéphane, voyez-vous.
Et donc, notre autre technicien.
Corduro. Comme ça qu'on dit.
Corduroy.
Corduroy avec le morceau Showdown.
Très bien, bravo. Alors revenons à Christian Lutz qui fait l'événement, qui est votre invité d'honneur sur ces boutographies. Vous l'avez connu, ce photographe, cet artiste, est passé aux boutographies déjà dans les débuts, hein, c'est ça?
Et il est passé en 2009 et c'est lui qui avait eu le premier en fait prix du public qu'on avait mis en place cette année-là. Avec un travail qui s'appelait Out West, un travail sur les États-Unis dans l'entre-deux-tours des élections.
Et donc vous me disiez hors micro que c'est une première en France où il expose cette trilogie.
Voilà, on est le premier festival à présenter les trois volets de la trilogie. Donc voilà, qui a pas été présenté. Ça a été présenté en Europe, mais par volets séparés.
Donc immanquable, Christian Lutz. C'est Lutz.
Lutz.
Lutz. Voilà, dans le cadre des boutographies. Je vous rappelle que c'est les dates, je les ai plus en tête.
86 avril.
86 avril à la Panacée. Voilà, et toutes les informations sur boutographie.com. Arnaud, si vous voulez bien, revenons sur les expos. Alors, vous avez une dizaine d'artistes qui exposent cette année.
Alors, effectivement, il y a 12 photographes, donc avec Christian Lutz, en accrochage. Ensuite, on a la projection du jury qui, cette année, présente 24 photographes. Donc, c'est vraiment le. Jusqu'à présent, on était à peu près entre 15 et 20. Là, on en avait 24 pour cette année. Ensuite, il y a une dizaine d'expositions dans le Hors les Murs. Donc, ce sont des galeries qui sont basées sur Montpellier, des lieux culturels. Et puis, on présente aussi des travaux dans les villages. Alors, un qui est enfin avec les ateliers photo de Clapiers et de Saint-Dreséry.
Alors, dans le cadre de ces expos, y a-t-il un fil rouge ?
Ben, c'est l'éclectisme. C'est la photographie européenne, c'est des talents émergents, sont des photographes qui, pour la plupart, sortent des écoles ou sont, pour quelques-uns, encore dans les écoles de photo européennes. Après, il y en a quelques-uns qui en sont sortis, qui commencent à entrer dans les galeries ou à travailler, mais ce sont pas, en tout cas, des grands noms de la photographie, des stars de la photographie, pour l'instant, en tout cas.
D'accord. Alors, Bella, qui me disait... qu'il aimait la photo, qu'il faisait de la photo, qu'il aimerait bien participer à cet événement. Comment faire ?
Oh, c'est très simple. On met en place, on lance notre appel à candidature à peu près au moment des rencontres d'Arles, donc première semaine de juillet. Et puis, il suffit d'envoyer un dossier. Et puis, si on est retenu, tant mieux. Sinon, oui. C'est pour l'année suivante, peut-être.
Bon, alors, mais quels sont les critères de sélection ?
Les critères, c'est toujours un travail d'auteur. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué d'expliquer ce que c'est qu'un travail d'auteur. Mais c'est vrai que ce sont, pour nous, ce qui nous intéresse, quels que soient les sujets, c'est que vraiment le travail nous fasse réagir, nous questionne, nous montre autre chose que ce qu'on peut voir. Par exemple, la photographie d'actualité, c'est pas tellement une photographie qu'on présente parce qu'elle se rattache à un instant présent, à quelque chose qui s'est réellement passé. Mais en revanche, tout ce qui en a découlé, tout ce qui est pourquoi il y a eu cette actualité, etc., ça, ce sont des choses qu'on peut dire à travers la photographie.
Mmh. Donc moi, j'ai une question très simple. C'est comment va la photographie et les photographes ? C'est-à-dire qu'on sait que, moi je connais des photographes autour de moi, c'est quand même pas super simple pour le moment de vivre de la photographie. Alors quel est le profil de ceux qui sont invités aux boutographies ?
Alors, bon, déjà, il n'y a pas que les photographes qui ont du mal.
Oui, non, mais puisqu'on parle de photographie.
Mais...
c'est peut-être pour mieux rebondir sur l'autre chose.
Non, c'est vrai.
Disons que pour les photographes qui sont chez nous, bon, ceux qui sont à l'école, bon, je pense qu'ils sont encore suivis par les parents, peut-être. Après, pour les autres, c'est vrai que c'est compliqué, c'est toujours difficile. Même pour des photographes, on va dire, je vais revenir sur Christian Lutz, parce que lui, par exemple, il collabore avec l'agence Vue. Donc voilà, c'est des gens qui ont quand même un sacré bagage photographique pour pouvoir travailler. Mais bon, voilà, c'est pas encore, c'est pas la panacée. Voilà.
Oui, c'est pas la panacée à la panacée. Bon, alors quand même, vous avez reçu là, cette année, je lisais, 772 dossiers en provenance de 21 pays européens. Ça, c'est aussi quelque part une belle reconnaissance de votre festival. Je veux dire, voilà, les photographes ont envie d'exposer chez vous.
Ben écoute, ça fait 15 ans en fait que ça progresse.
Mm-hmm.
Voilà, chaque année, on a une centaine de dossiers de plus. Il se trouve que cette année, vraiment, on a eu 200 de plus, avec vraiment une grosse arrivée du côté de l'Allemagne, puisque ça représente à peu près une centaine de dossiers, ce qu'on a reçu d'Allemagne. Et ça, c'est à force d'aller sur Internet, envoyer la com, etc. Donc ça, ça commence à se faire connaître.
Ça doit être d'autant plus difficile donc, pour faire la sélection.
C'est toujours compliqué. Alors, devant le jury, on présente pas les 700 et quelques dossiers. On présente à peu près une centaine de dossiers. Déjà, ça prend entre 8 et 10 heures dans la journée pour en prendre que 12 ou 15.
Et oui. Alors, 11 photographes ont été sélectionnés pour le prix du jury, justement.
Alors, pour le, oui, effectivement, il y en a 11 qui concourent pour le prix du jury. Ces photographes-là donc sont effectivement issus de l'appel à candidature. Alors, il y en a 10. Le 11e, c'est un photographe qui fait partie du prix Photo Legendo. Donc, c'est un échange entre le festival Photo Legendo à Rome et notre festival.
Ça, c'est une première aussi, cet échange, non ?
Ça fait 6 ans que ça existe.
D'accord.
Donc, ça existe dans les deux sens. Donc, le festival romain vient chaque année au festival, aux boutographies, choisit un photographe. L'expo chez lui et nous on fait la même chose au mois de juin.
Mmh, très bien. Et donc ce jury est composé de 5 professionnels.
Alors ce sont en général entre 4 et 5 professionnels. Ce sont des gens, donc pour avoir une sélection éclectique, qui viennent de différents milieux de la photographie. Donc ça peut être des galeries, ça peut être des éditeurs, des directeurs de festivals, etc., des critiques. Et puis on a une particularité, c'est qu'on prend toujours un photographe de l'édition précédente qu'on fait rentrer dans le jury.
Yes, Chlorine Free sur le réseau FM+, mais aussi ce soir, vendredi, en concert au Jam. Et franchement, je vous les conseille, ils sont super. Alors Arnaud Laroche, revenons à ces boutographies.
Revenons à nos boutons. Non, c'est vrai, boutographie.
Et bon, nous profitions cette pause musicale pour discuter là un peu entre nous, mais je pense que ça intéresse tout à fait aussi nos auditeurs sur les problèmes, comme l'a abordé Bella, de budget, de coût, parce que faire de la photo c'est bien beau, mais ça a quand même un coût. Exposer ces photos, ça coûte très cher. Comment ça se passe pour tous nos photographes financièrement? Ils arrivent un peu à s'en sortir?
Alors, on essaye avec nos moyens sur ce festival de leur offrir le plus de choses possible. Donc, par exemple, le transport des expos, qui est une grosse somme, mine de rien. Donc ça, on prend ça en charge. On prend en charge aussi tout l'hébergement, les repas, etc. sur place. Évidemment, on aimerait beaucoup pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire peut-être faire la production des œuvres, mais sur 12 photographes, ça fait énormément d'argent. Après, l'avantage, entre guillemets, c'est qu'on se retrouve avec des expositions qui sont toutes de tailles différentes, de formats différents, et pas avec une uniformité dans les tailles, si on devait être là pour produire. Parce que dans ce cas-là, si on produit, c'est sûr que le photographe, il ne va pas nous dire on va faire un 20-30, on va faire un 2 mètres sur 3. C'est certain.
Et oui. Alors, bon, il y a des projections aussi vont avoir lieu. Ça, c'est assez sympa. 24 photographes seront présentés.
Alors, la projection du jury, c'est une projection qui tourne en continu pendant toute la durée du festival. Elle sera dans la première salle quand on rentre à gauche. Ensuite, il y a des rencontres avec des photographes le premier jour, le samedi après-midi. Donc ça, c'est un travail qu'on a mis en place avec deux associations de langues étrangères ici à Montpellier, I Dilettanti pour l'italien et la maison de Heidelberg pour l'allemand. Donc chacun présente un photographe de la sélection officielle qui est en accrochage dans la langue du photographe, avec évidemment une traduction simultanée en français. Et voilà, donc on va parler du travail du photographe. Voilà, ils vont poser des questions, des interactivités avec le public. Donc ça, c'est des moments qui sont assez sympas parce que voilà, on peut rencontrer directement les photographes.
Oui. Alors, je me pose la question quand même, toutes ces photos exposées, bon, vous disiez, c'est pas de la photo documentaire, c'est peut-être justement après, on va dire, un état des lieux, un ressenti, après une actualité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de ça, là, quand on voit toutes les photos là, que vous avez sélectionnées, qui vont être exposées? Est-ce que ça nous donne un reflet de la société en Europe, par exemple, ou...
Alors, oui, ça nous donne un reflet de la société. On parle aussi bien de gens du voyage irlandais en Irlande. Donc c'est quelque chose d'assez particulier à l'Irlande. On parle de l'Espagne, on parle de l'Allemagne, on parle des problèmes religieux dans une certaine église en Suisse. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses qui font partie de la vie de tous les jours. Cette exposition In Jesus Name, ça reflète exactement en fait le problème de ce que une image est capable de dire ou de faire dire, puisque voilà, ça amène à un process, ça amène à une incompréhension en fait de la lecture de l'image, parce que il y a des symboliques qui rentrent dans les images, qui interpellent certaines personnes, qui disent certaines choses à certaines personnes en fonction de ce qu'on vit aussi, de notre vécu.
Alors bon, l'émission se termine, comme vous l'avez évoqué, autour de cette programmation, des lieux culturels et galeries exposent des artistes émergents. Donc ce sont les boutographies hors les murs, il y a une dizaine de lieux, tous feront un vernissage, parce qu'il y a, voilà, il y a aussi un côté festif, hein, de même pour les boutographies. Toutes les informations sur le site boutographie.com,
oui.
Tout est en entrée libre, ça c'est important. Et donc, la Panacée, le lieu principal, centre contemporain, se situe 14 rue de l'école de pharmacie, en plein cœur de ville. Comme je disais, donc l'entrée est libre. L'ouverture, c'est du mercredi au samedi.
Mercredi au dimanche.
Du mercredi au samedi de 12h à 20h et le dimanche de 10h à 18h.
Exactement.
Arnaud, un grand, grand merci.
Merci.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. On reste... à l'écoute de Scénorama pour la seconde partie avec Bella Zupone. Scénorama sur les réseaux FM+. C'est tous les vendredis à 10h10, le samedi à 12h10 et écoutable en podcast sur fmplus.org. Donc, seconde partie avec Bella. Bella.
Oui.
Bella, s'il y en a un à Montpellier. Bon, il faut que j'explique aux auditeurs. Parce que
non,
vraiment,
c'est une private joke, mais si les auditeurs voilà. te suivent, on comprend. C'est une private joke de 15 ans.
Voilà, déjà rien que votre nom, votre prénom, votre nom de famille me fait encore plus rire. Puis votre tête aussi, vous me faites rire,
c'est
Bella.
C'est sympa,
voilà.
Heureusement que c'est la radio.
il faudrait absolument qu'on arrive à mettre aussi. La vidéo sur notre site.
Oui, ça se fait beaucoup dans les radios maintenant, radio visuelle.
Oui. Voilà, on va essayer de faire ça. Alors Bella, s'il y en a un à Montpellier qui est passionné de textes contemporains et qui n'a pas son pareil pour nous les faire entendre, c'est bien vous. Pas étonnant donc que vous nous proposiez une semaine de lecture théâtrale, Les Horizons du texte, à découvrir dans votre lieu La Baignoire, mais aussi hors les murs. Donc ça, c'est la nouveauté de cette année, si je ne me trompe.
Oui, l'année dernière, nous étions allés à la Vignette quand même, à l'université, mais là, s'ajoute HTH et la Bulle Bleue.
Ouais, ouais. Alors, vous nous proposez une dizaine de rendez-vous, dès ce samedi et jusqu'au 3 avril. Comment sélectionnez-vous ces textes ?
Alors, il y a plusieurs entrées, je lis des textes, et la sélection se fait pour les textes français contemporains, beaucoup par des choix que je fais avec les éditions Espace 34 et puis des auteurs que je connais. On pourra peut-être les lister tout à l'heure, mais bon, par exemple, Mariette Navarro, je la connais depuis un moment, Magali Mougel aussi, voilà, ce sont des auteurs que j'ai envie de rencontrer, que j'ai envie d'inviter. Ensuite, pour la partie internationale. La partie internationale, c'est vraiment grâce à la Maison Antoine Vitesse, Association internationale de la traduction théâtrale, qui a à la Baignoire et ailleurs, qui a installé un comité de lecture du Languedoc-Roussillon. Donc, je vois et je lis des textes qui passent, qui nous sont passés, qui sont donnés à lire par la Maison Antoine Vitesse. Donc voilà, donc c'est le cas de l'Abeille, par exemple, et pour la Maison Antoine Vitesse, et ensuite des monologues singapouriens. Voilà, là, carrément, la Maison Antoine Vitesse m'a mis en contact avec quelqu'un qui est à l'Institut français à Singapour.
D'accord. Alors, puisque nous parlons de l'Abeille, on va développer un peu cet auteur et ce que vous allez nous donner à entendre, puisque c'est la soirée d'ouverture, on va dire, ce samedi à 19h à la Baignoire. Donc, vous voulez nous présenter Hideki, c'est ça ?
Hideki Noda. Mais j'aurais assez de mal à vous le présenter, parce qu'on ne le connaît pas, donc moi je ne le connais pas. Je sais qu'il est venu présenter sa pièce L'Abeille, mais c'est The Bee, donc en anglais, à Paris la saison dernière. C'est un texte qui a eu beaucoup de succès à Londres d'abord, donc voilà, c'était à Chaillot, je crois, au Théâtre National Populaire. Et donc voilà, c'est un auteur qui est connu, réputé au Japon, mais il a une cinquantaine d'années. Il est le directeur de deux salles, je crois, au Japon. Ne me demandez pas, je pense que c'est à Tokyo, mais j'en suis pas sûr. Et voilà, cette pièce nous est arrivée justement au comité de lecture, et c'est un objet étrange et décalé comme je les aime, c'est-à-dire ça parle de la violence, mais on rit beaucoup, je pense. Je pense que ça va très loin. Parfois, je ne sais pas si on n'est pas très proche des Monty Python, par exemple, ou bien d'une violence type les frères Cohen dans Fargo. Et voilà, enfin bref, il y a quand même voilà, c'est quand même une bande d'abrutis quand même dans ce texte, voilà.
D'accord.
Et donc la spécificité aussi, c'est que il y a 14 personnages, mais ce sont 4 acteurs qui jouent les 14 personnages. Donc là, en lecture, c'est nommé, mais on imagine très bien la jouissance et le plaisir qu'il y aurait à monter cette pièce, justement, avec 4 acteurs, changement à vue, etc. Il y a du jeu au sens ludique et au sens dramatique du terme.
Mmh. Alors, vous y êtes aussi, hein
Oui, je lis l'inspecteur Dodoyama.
D'accord. Mais quand vous en parlez, de toute façon, on voit vos yeux qui pétillent, on sent déjà que vous allez vous régaler.
Oui, là, je sors de la pétition ce matin, c'est pas triste.
Il y a une mise en espace, comment ça va se passer ?
Là, c'est déjà suffisamment compliqué. Donc, pour l'Abeille, non, ce sera vraiment face publique, mais bon, avec des interactions, dirons-nous, entre les acteurs.
D'accord. Donc c'est ce samedi à 19h à la baignoire. Mmh. Dimanche, on pourra bruncher avec les
Marie Navarro et Magali Mouget.
Voilà,
oui.
Le brunch des auteurs.
Donc c'est à partir de 11h et l'année dernière, ça s'est terminé vers 15-16h. On brunch, puis après, en fait on lit, on écoute et on mange pas mal, quoi. Mais on commence quand même doucement avec café croissant.
Café
croissant jus d'orange, et ensuite nous montons en puissance au fur et à mesure de la journée. L'année dernière, c'était assez formidable. Je crois que les gens se sont régalés à tous les sens du terme, non seulement pour les plaisirs de la bouche, mais pour les plaisirs de l'esprit aussi. Donc j'ai vu qu'il allait faire beau dimanche, donc ce qui, puisque la baignoire, une des cours de récréation de la baignoire, ou le fumoir, le bar, le lieu de rencontre, c'est la rue. Donc je pense que ça c'est...
On va installer les tables dans la rue, c'est ça, pour bruncher?
Je n'ai pas encore demandé à la mairie de bloquer la rue carrément, la rue Bruais, mais ça pourrait se faire. Donc voilà, donc deux femmes, donc Mariette Navarro et Magali Mougel, deux femmes qui parlent des femmes, qui parlent de la suggestion des femmes, qui parlent de la place de la femme dans la société, ou de l'absence de place dans la société, ou du manque de place des femmes dans la société. Là, vous pouvez décliner comme vous voulez. Je suis très fier d'avoir plusieurs femmes auteurs dans la programmation. Je pense que c'est vital à l'heure actuelle. On lit des choses, et sur Internet et sur Facebook, où l'on se rend compte que la misogynie et la suggestion des femmes est toujours à l'ordre du jour, et ça me fait assez frémir, parce que je pense que si on ne donne pas la place qui revient à la femme, je pense qu'on est dans une société qui est très très mal partie, ou bien qui est en stagnation, ou bien qui est rétrograde. Donc c'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est pas du tout une pose ou une posture. Je pense que c'est profondément important dans une démocratie de donner une place pleine et entière aux femmes.
Oui, il y a un vrai travail à faire encore, c'est clair.
Et donc Prodige parle de ça. Prodige parle de trois femmes qui sont réunies pour vendre un objet en plastique pouvant contenir des aliments. Si vous voyez ce que je veux dire, nous n'allons pas citer la marque. Ça se passerait à la fin de la guerre. Et effectivement, dans une volonté de vendre, et elle déroule un argumentaire, visiblement, qui est écrit dans un bouquin, quelque part, qu'elles doivent dire. Et je vous raconte pas comment, parce que ça dérive légèrement à certains moments, et ça part un petit peu ailleurs. Mais c'est très bien écrit. Mariette était vraiment un grand auteur. Je vous conseille son Alors Carcasse, qui est paru aux éditions du Chêne, qui est un poème à dire, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est très très beau. Et c'est drôle. Là aussi, il faut le reconnaître que ça, quand même, c'est grinçant et drôle. On a trois comédiennes formidables, Julie Méjean, Mama Prasinos et Frédéric Dufour. Pour ceux qui les connaissent, bon, vous voyez, c'est bien. Et moi, hier, j'ai répété, elles m'ont beaucoup amusé. Mais ce n'est pas que drôle, hein, c'est vraiment, il y a quelque chose de sous-jacent. Et Magali Mougel, c'est un texte extrait des Guerrières ordinaires, donc qui est paru aux éditions Espace 34. Et les éditions Espace 34, dirigées par Sabine Chevalier, édition régionale et nationale, voire internationale,
yes.
Maintenant. Donc voilà, c'est nous travaillons en bonne intelligence avec Sabine, et donc ce sera un des textes des Guerrières ordinaires qui donne des portraits de femmes, voilà, effectivement dans la façon de se réapproprier leur vie face à une oppression latente ou évidente, souvent de la part d'hommes, tiens comme c'est curieux, et voilà, c'est moins drôle, c'est moins drôle.
Bon, mais nous irons quand même, parce que franchement, il faut soutenir et les auteurs et les femmes. Alors, j'ai remarqué que vous dites auteur et pas autrice, hein, comme certaines...
Ah pardon, oui, c'est...
Comme certaines
femmes. Voilà.
Non, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce terme?
Écoutez, j'étais assez flottant sur cette chose-là. Et puis j'ai rencontré des dames qui sont d'ailleurs nous avons fait un petit bout de chemin sur toutes les 5 minutes de Linda McLean. Linda McLean est un auteur écossais une autrice écossaise qu'on pourra entendre le 1er avril. Et voilà, j'étais tombé dans un groupe de tel seul homme, de femmes militantes, etc. Et je pense qu'il faut établir autrice. C'est vrai que dans un premier temps, autrice m'écorchait les oreilles, mais ils ont fait traducteur, traductrice, acteur, actrice, donc auteur, autrice. Et je pense que là aussi, c'est une façon. Et vous faites bien, cher ami, de me faire remarquer que je disais auteur. Vous voyez ? Non, mais ça commence par la langue.
C'est très très long à changer.
Et je pense que ça passe par la langue. Et ce qui rejoint ce qu'on est en train de faire ici, lire le théâtre contemporain. Beaucoup de choses commencent par la langue et par la culture. J'aimerais que des personnes haut placées et moins haut placées, notamment les politiques évidemment, se le remette à l'esprit. Je pense qu'on ne passe pas que par l'économique et que par la gestion des affaires.
Ima, Fuda de ga, Chikazuku, Kono toki ni, Futo, Tatazumi, Watashi wa, Furi kaeru, Toku, Tabishite, Aruita, Wakai hiro, subete kokoro no kimeta mama ni. Ai to namida to hohoemi ni afure. Ima omoeba tanoshii omoide yo kimi ni tsuge yo mayowazu ni yuku koto yo kimi no kokoro no kimeta mama ni watashi ni wa ai suru uta ga aru kara shinjita kono michi o watashi wa
Étonnant, non ?
Étonnant, tout à fait. Mais venant de vous, Bella, ça ne m'étonne pas. Mais aussi, voilà, vous me disiez que c'est, nous entendrons ce morceau dans L'Abeille, à voir ce samedi.
Donc c'est My Way en japonais.
Il n'y aura pas que My Way en japonais, c'est ça ?
Non, il y aura d'autres choses.
Bon, donc nous n'avons pas fini d'être surpris dans le cadre de ces horizons du texte. Donc à voir à la baignoire et dans d'autres lieux, HTH, Bulle Bleue, Vignette, c'est à compter de ce samedi jusqu'au 3 avril. Bella, ce sont des textes avec une langue nouvelle, vous dites, c'est-à-dire...
Ah, une langue nouvelle. Là, on parlait justement de la langue juste avant l'interruption musicale. La langue... Auteur contemporain ou autrice contemporaine, donc dit simplement, c'est une je commence par une napalissade, dit simplement que ce sont des gens d'aujourd'hui. Le monde change, notre regard sur le monde change, on l'a vu aussi avec les photographies, je suis certain que ça doit être passionnant d'aller voir les boutographies, parce que le regard sur le monde change et la langue se transforme. La langue se transforme non seulement par le biais de la langue, je dirais, de la rue, qui transforme la langue d'elle-même, mais aussi par des auteurs qui s'emparent de la langue et qui, fort de tout ce qu'ils perçoivent de la rue, etc., de ce qui se passe, la retransforment. Les grands changements, c'est quoi ? Eh bien, c'est une pléthore, un bombardement d'informations. Nous sommes sur plusieurs niveaux de temps et d'espace en même temps, avec tout ce qui est les moyens de la communication, etc., donc nous percevons tout ça. Donc notre cerveau est capable, ou a pris l'habitude, ou plastiquement s'est transformé pour qu'on puisse suivre plusieurs choses à la fois. Donc il y a des choses qui peuvent se passer au niveau de la structure d'un texte, c'est-à-dire le fil narratif est rompu, et à l'intérieur de ce fil narratif, ce sont des impressions. Donc c'est une cohérence, il y a une trame qui est posée par l'auteur, quelque part, mais qui ne va pas apparaître explicitement dans ce texte, mais on va être bombardé des tas d'informations. Et le cerveau, nous, le jeu, ça va être essayer de reconstruire tout ça. Donc ce sont des formes, des nouveautés de structure, des nouvelles structures. Ensuite, il y a la langue elle-même, et ça je parle plutôt pour les auteurs francophones ou français, où là, eh bien, c'est un travail perpétuel de la poésie que de transformer, que de chercher, que de creuser la langue. Donc, on a, en fonction de chaque auteur, des façons différentes de creuser la langue. Puisque la langue, comment dirais-je, c'est un monde créé par l'auteur. La langue appartient à l'auteur. À chacun de nous, d'ailleurs, nous avons des univers et donc des langues et des langages différents. Et ce mélange des langages fait que, par le biais de la langue, on ouvre d'autres espaces ou on enferme. Là, je parle de la langue de bois, qui est une langue qui clôt, ou de la langue de la communication. Là aussi, ce travail sur, le texte, c'est aussi pour arrêter avec la communication. Voilà, avec la langue véhiculaire, on a 300 tonnes de blé à faire passer par Taïwan, etc. Pour aller au-delà de ça et créer des mondes et des univers. Et je pense qu'on a bien, on en a bien bien besoin aujourd'hui pour ce vivre ensemble dont on nous parle tant et qui peut devenir un faire ensemble. D'ailleurs, dans ce faire ensemble, c'est pour ça que j'inclus des étudiants d'université, voire des jeunes de l'école primaire ou du collège ou du lycée.
D'accord. Alors je me posais aussi la question du rythme. Parce que le rythme est très important dans la façon de dire le texte. L'auteur ne le précise pas forcément. Percevoir qu'il faut le dire à tel rythme ou tel autre.
Alors ici, il le dit, mais il le dit pas sur d'une façon impérative. Sur une page, il y a une typographie, il y a une façon d'agencer le texte, il y a une façon de le mettre d'abord sous l'œil du lecteur. Une première chose. Ensuite, ce qui participe à ça sur la rythmique, c'est la ponctuation, ou l'absence de ponctuation, ou une ponctuation bizarre. Voilà. Donc, si l'auteur nous dit il nous montre une voie pour le dire. Après, il y a mille manières de dire le même texte ou de rentrer dans un texte. C'est ça qui est intéressant. Sinon, c'est un mauvais texte. Donc voilà. Alors, je dis toujours que le texte est posé comme une énigme et le plaisir qu'on a dans un premier temps, c'est d'essayer de découvrir cette énigme, de commencer à comprendre ce qu'il y a dedans et qui parfois même échappe à l'auteur. Ça, c'est tous les auteurs de romans, etc., qui vous disent « Oh là là, il y a mon lecteur, il m'a dit ça, j'avais pas vu ça, mais il a raison si je me relis, etc. » Là, pour le moment, on a travaillé sur le texte de Mariette Navarro. On travaille et puis on se rend compte qu'en fait, il y a des sous-couches, des sous-couches, des sous-couches. Et c'est jouissif de faire ça. Effectivement, il n'y a pas un sens donné, univoque. Il y a une plurivocalité, même dans les textes d'auteur, même si c'est un auteur qui l'écrit. Et je reviens sur cette idée de non-univocité, effectivement, de pas avoir une voix seulement. Je pense que ça aussi, c'est de la politique, c'est de la démocratie. On peut avoir plusieurs lectures. Il n'y a pas une vérité, on ne l'assène pas sur la tête des autres. Simplement, on se donne les moyens de pouvoir accéder chacun et tout un chacun et personnellement à des sens qui vont être des sens pour nous. Sens sensible et sens dans la raison.
Très bien. Bella, vous allez nous lire un extrait de texte.
C'est maintenant.
Voilà, c'est maintenant, c'est tout de suite. De quel texte s'agit-il ?
Il s'agit de « Ce qu'il faut d'héroïsme » d'Éric Pessan. Alors, Éric Pessan est un auteur de romans, il écrit du théâtre aussi. Et j'ai eu le plaisir d'entendre ce texte lu par lui-même à Paris, dans un lieu qui s'appelle Anigra ou Anisgra, si on veut, qui est un lieu dédié aussi aux écritures contemporaines et aux expérimentations. Voilà, et je me suis dit « ça, j'ai envie de le lire ». Alors, c'est une exclusivité pour votre radio, puisque ce texte paraîtra en octobre. Et donc la lecture qui se jouera, qui se donnera à HTH, voilà, c'est une chose, ce texte n'est pas édité.
D'accord, donc ce sera à HTH ce lundi. Nous redonnerons les informations pratiques ensuite.
Ce qu'il faut d'héroïsme pour se chausser, enfiler une veste, vérifier que l'on a bien son portefeuille, sortir et verrouiller la porte derrière soi, marcher ou prendre la voiture, le vélo, pour se rendre à l'école, dans le gymnase ou en mairie, saluer la personne à l'entrée, faire sa récolte des petits papiers, ajouter une enveloppe à la pile, tirer le rideau derrière soi, glisser un seul bulletin dans l'enveloppe après l'avoir plié, ressortir, faire la queue, présenter sa carte d'électeur et, parfois, sa carte d'identité, attendre que les gens trouvent votre nom sur le grand cahier, signer dans la bonne case, mettre l'enveloppe en face de la fente, patienter encore une petite seconde que la fente s'ouvre et lâcher l'enveloppe. Alors que les noms qu'elle contient ne vous font plus rêver depuis longtemps, alors que vous luttez contre l'envie de la froisser, d'en faire une boule, de la transformer en pluie de confetti, d'éclater de rire comme si vous n'étiez pas dupe de la farce que l'on vous fait. Il en faut de l'héroïsme pour faire semblant d'y croire, pour prendre vos gestes d'aujourd'hui au sérieux, pour oublier la longue, très longue, trop longue liste de vos déceptions. Il faut de l'héroïsme et certainement un peu de bêtise, ou une amnésie salvatrice pour oublier combien vous vous sentiez mieux d'être dans l'opposition, pour oublier qu'il est tellement inconfortable de soutenir les candidats qui forcément vous décevront, forcément vous navreront, forcément provoqueront de grands chagrins et de grandes colères. À peine tremblez-vous lorsque vous glissez vos cartes dans votre portefeuille et votre portefeuille dans la poche intérieure de votre veste. Vous avez été brave, vous l'avez fait. Vous avez une nouvelle fois voté contre, sans conviction, parce qu'il n'est plus possible de voter pour, mais simplement contre. Parce qu'il n'est plus possible d'avoir confiance, de croire vraiment aux paroles d'un candidat, de vous dire qu'un parti ira contre l'ordre mondial, qu'un parti osera affronter ce que tous présentent comme inéluctable, comme fatal, comme immanquable. Et vous vous éloignez de l'urne sans vous effondrer sur le sol, sans hurler que vous n'en pouvez plus de ce monde dirigé par ceux qui possèdent. Vous êtes beau. Dans votre résignation douloureuse. Vous vous consolez en disant que vous avez voté pour le moins pire, que si vous n'aviez pas voté et que les autres le remportent, vous vous le reprocheriez durant des mois, que vous ne pourriez pas trouver le sommeil. Vous avez accompli votre devoir. Vous vous souvenez de l'argument imparable du respect de ceux qui sont morts pour que d'autres puissent élire. Vous refaites un pas. Vous n'avez plus de rêves, plus d'illusions. Vous êtes dessillé et vos yeux pleurent de ne pas pouvoir se reposer dans le noir. Les lumières vous agressent, une vague nausée glace votre estomac. Vous vous dites que vous couvez un sale truc, que la gastro est de retour. Vous avez chaud, vous avez froid, vous avez voté. Vous ne pouviez pas ne pas voter. Vous refaites encore un pas et, comme vous êtes profondément héroïque ce matin, il vous reste la force de saluer l'homme qui se tient debout à l'entrée de la salle.
Bravo Béla, complètement d'actu, n'est-ce pas?
Je trouve.
Ce texte va peut-être encourager nos auditeurs à aller voter ce week-end, ou en tout cas ça va certainement leur parler.
Alors c'est vrai que ce qu'il faut d'héroïsme est d'abord comme une espèce d'antiphrase, mais après, en y réfléchissant, je pense qu'il en faut de l'héroïsme.
Les horizons du texte ou lire le théâtre contemporain. En grosse partie à la baignoire, 7 rue Bruyès, c'est à compter de ce samedi 28 jusqu'au 3 avril. Alors, au niveau des tarifs, bon, c'est vraiment des tarifs tout à fait abordables, entre 8 et 5 euros. Pour les brunchs, les repas, donc évidemment, c'est un peu plus cher, c'est 15 euros avec le repas, 800. Il faut absolument réserver, donc je donne un portable, je ne sais pas si c'est votre portable, un portable, 06 01 71 56 27, toutes les informations sur labaignoire.fr, mais là il nous reste une minute pour terminer l'émission, donc voilà, on n'a pas,
bon.
C'est passé trop vite, on n'a pas pu tout développer.
Non.
Voilà, vous voulez mettre l'accent sur.
Non, ne me demandez pas de mettre l'accent sur quelque chose.
Oui, tout est bon.
Tout est formidable.
Tout est formidable.
Si,
ouais.
Venez aussi à la Bulle Bleue. On n'a pas parlé de la Bulle Bleue, donc qui est quand même présenté rapidement un établissement spécialisé d'aide par le travail, donc qui travaille avec des acteurs handicapés, et notamment il y aura un de ces acteurs qui présentera un texte qu'il a écrit, Arnaud Gélis.
D'accord.
Avant la soirée avec Claire Rangade, qui est complètement fofolle.
Voilà, et ça c'est le mercredi 1er avril, ça tombe bien pour un 1er avril.
Voilà.
Voilà, et ce sera à 18h puis à 20h30 à la Bulle Bleue donc. Mais là, un grand merci.
Merci.
Merci à Manu qui est à la technique, merci à vous chers auditeurs et rendez-vous à vendredi prochain. Bye bye.